nous sommes le vendredi 28 juin. Bonjour à tous et bienvenue sur France Inter. Agnès Soubiran, bonjour.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, toujours plus chaud. Quatre départements du sud-est de la France en alerte rouge canicule et toujours 76 en alerte orange. Les risques pour la santé s'accentuent et le gouvernement se mobilise, notamment la ministre de la Santé. On va voir tout ça en détail après les autres titres.
Donald Trump, cible de toutes les attaques des candidats à l'investiture démocrate. La sortie de prison aujourd'hui de Jean-Claude Roman, le faux médecin qui avait tué toute sa famille en Isère. Et puis bien sûr, les Bleus, nos Bleus, qui affrontent les Américaines en quart de finale de la Coupe du Monde féminine de foot ce soir. Dans ce journal, portrait de la sélectionneuse Corinne Diacre.
Et les invités d'Inter ce matin à 7h50, l'immense metteur en scène Peter Brook sera au micro d'Ali Badou. À 8h20, la canicule donc. Elle nous donne une idée de ce que pourrait être un climat déréglé, une idée aussi de notre retard pour l'affronter. On verra, on en parlera et on verra tout à l'heure ce qu'en pense l'eurodéputé La République En Marche, Pascal Canfin. Il est l'invité du grand entretien de la matinale. Intervenez au 01 45 24 47 000.
France Inter. 42, 43, 44, jusqu'à 45 degrés attendus cet après-midi dans le Gard, l'Hérault, le Vaucluse, les Bouches-du-Rhône, quatre départements placés en vigilance rouge canicule, une première en France, une chaleur qui est aujourd'hui dangereuse pour tout le monde, martèlent les autorités. Et avec cette chaleur, l'envie est forte, bien sûr, de filer à la plage pour se baigner, mais là aussi prudence. Quatre personnes sont mortes noyées depuis le début de la semaine, notamment hier deux septuagénaires emportés par des courants dans les Côtes d'Armor. Et à Marseille, où les plages du centre-ville sont prises d'assaut. C'est le risque d'hydrocution qui préoccupe les maîtres nageurs. Reportage d'Olivier Martoc.
Est-ce que vous avez une idée de la température qui fait là ?
Actuellement, 38.
Il fait 52.
52 ? Comme quoi ?
Comme la plupart des personnes étalées sur la plage, ces jeunes sont détendus et heureux.
Ah ouais, on transpire. Faut boire et se baigner là, sinon c'est dur.
Pas de problème pour eux et les centaines de personnes allongées sur le sable. Il y a bien ce drapeau orange qui intrigue, car la mer est plate. Explication de Julien Maillet, maître nageur au Sporting Club Corniche.
La bouée donne une température de l'eau alors en ce moment à 26 degrés en surface. Sur le sable, la température peut monter plus de 50, oui, facile. Et le risque, c'est une déshydratation. Vu la différence de température entre l'eau et l'air, c'est un choc thermique. Donc oui, des malaises, des évanouissements, jusqu'à aller une perte de conscience et un arrêt cardio-ventilatoire.
Un peu plus loin à l'ombre, Sylvain, moniteur de sport de combat, il est lui de fait en chômage technique.
La température du corps, elle va très très rapidement monter en température, donc obligatoirement il va y avoir une fatigue générale. Le cœur va pomper plus et donc voilà, c'est là qu'on peut avoir des problèmes très graves.
Et en raison de cette vigilance rouge, toutes les compétitions sportives sont annulées. Marseille. Olivier Martoc, France Inter.
Et de nombreuses écoles vont rester fermées aujourd'hui dans ces quatre départements, notamment à Nîmes. Les sorties scolaires et les fêtes de fin d'année sont annulées ou reportées. À Saint-Denis, près de Paris, un petit garçon de 6 ans a été grièvement blessé lors de l'ouverture d'une bouche à incendie. Un risque interpelle les pompiers. Le gouvernement reste très mobilisé avec une réunion interministérielle ce matin sous la houlette du Premier ministre et en première ligne la ministre de la Santé qui, depuis le début de la semaine, multiplie les déplacements. Lisa Guyenne a passé la journée d'hier aux côtés d'Agnès Buzyn.
Début d'après-midi, visite dans une école de banlieue parisienne.
Est-ce que les cantines et les menus se sont adaptés à la chaleur ?
Oui, alors nous avons...
Pas le temps de traîner, trois quarts d'heure de visite et on s'éclipse rapidement par la porte de service.
Merci madame la ministre, au revoir.
Je vais aller au centre de crise pour voir où on est le point météo.
16h, Météo France vient de déclencher l'alerte rouge à la canicule.
C'est le marathon parce que la température va encore augmenter dans beaucoup de départements.
Vous vous souvenez de tous les déplacements que vous avez faits depuis lundi là ?
Non. Certainement pas. Souvent l'après-midi, je ne sais même plus ce que j'ai fait le matin.
Arrivé au ministère de la Santé, réunion d'urgence entre la ministre et ses conseillers.
Donc l'information importante du jour, c'est que quatre départements passent en vigilance rouge. On est face à un épisode exceptionnel dans son intensité.
Le fait, et dans son extension.
Et dans son extension, la situation effectivement évolutive.
Ouais. Depuis combien de temps cette échelle a été mise en place ? Depuis 2003 ?
2002.
Bien.
quelques minutes pour être au point sur la situation et ne pas se laisser piéger par les questions des journalistes qui attendent la déclaration de la ministre. La semaine n'est pas terminée. Ce matin, Agnès Buzyn décollera de Paris pour se rendre dans les départements en alerte rouge.
Et côté transport, la nuit de cauchemar des passagers d'un intercité Paris-Clermont. Parti hier de la capitale avec 2 heures de retard, le train s'est retrouvé stoppé au sud de Montargis après une rupture de caténaire, sans climatisation, sans eau et avec des toilettes hors d'usage. Les passagers sont attendus à 9h30 ce matin à Clermont, soit 12 heures de retard. Et puis sur les routes, la circulation différenciée reste en vigueur aujourd'hui à Paris, à Lyon et à Marseille.
Il est 7h06, Agnès, direction la Floride pour le second débat des prétendants à l'investiture démocrate.
Et 10 nouveaux candidats hier soir, notamment les deux favoris Joe Biden et Bernie Sanders, qui ont multiplié les attaques contre Donald Trump. Débat suivi par Grégory Philippe, envoyé spécial de France Inter à Miami.
Dès l'ouverture de ce second débat, la cible est toute trouvée. Donald Trump nous a placés dans une situation horrible, dit Joe Biden. Et Bernie Sanders renchérit. Les Américains savent très bien que Trump est un escroc, un menteur pathologique et un raciste. Mais très vite, c'est le plus expérimenté des candidats, Biden, qui est aussi la cible des attaques de ses concurrents démocrates. Le représentant de Californie, Eric Swalwell, raconte que lorsqu'il avait 6 ans, il a entendu un certain Joe Biden, déjà candidat à l'investiture démocrate, dire qu'il fallait passer le flambeau aux nouvelles générations. Alors faites-le. Biden, 76 ans, accuse le coup. Puis la sénatrice de Californie, Kamala Harris, particulièrement offensive hier soir, attaque elle aussi. Je sais bien que vous n'êtes pas raciste, dit-elle à Biden, mais elle évoque les récents propos de l'ancien vice-président qui avait salué la courtoisie de 2 sénateurs, pourtant connus pour leur position ségrégationniste. Biden, le favori, prend des coups. Kamala Harris marque des points. Prochain débat pour les démocrates fin juillet à Détroit. La campagne ne fait que débuter et la route sera longue jusqu'à la convention qui, en juillet 2020, désignera celle ou celui qui affrontera Donald Trump. Miami, Grégory Phillips, France Inter.
Et le début officiel du G20 à Osaka, au Japon. Photo de famille des chefs d'État et de gouvernement et un premier tête-à-tête entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Et une inquiétude sur l'état de santé d'Angela Merkel, la chancelière allemande, à nouveau prise de tremblement hier. Le président tunisien, 92 ans, reste lui hospitalisé dans un état critique, victime d'un malaise hier. Au moment où le pays était frappé par un double attentat suicide contre les forces de l'ordre, bilan 1 mort et plusieurs blessés à Tunis. Attentat revendiqué dans la soirée par l'État islamique.
Il est 7h08, retour en France, Agnès, avec la sortie de prison aujourd'hui de Jean-Claude Roman.
Ce faux médecin qui, durant des années, a menti à ses proches avant de tuer ses parents, sa femme et leurs 2 enfants. Jean-Claude Roman, dont l'histoire a inspiré romancier et réalisateur, a passé 20 ans derrière les barreaux. Et Maïwenn Bordron, il doit donc quitter aujourd'hui la maison centrale de Saint-Maur.
Le faux docteur, qui a aujourd'hui 65 ans, va rejoindre une communauté religieuse de la région Centre-Val-de-Loire. Une communauté qui a l'habitude d'accueillir des personnes en difficulté. Jean-Claude Roman devra porter un bracelet électronique pendant 2 ans. Il sera également soumis pendant 10 ans à des mesures d'assistance et de contrôle. À sa sortie de prison, il va participer à la vie de la communauté en s'occupant du jardin ou en donnant des cours d'informatique. C'est ce qu'ont révélé récemment des journalistes de Complément d'enquête dans leur documentaire diffusé sur France 2. Jean-Claude Roman va bénéficier des minima sociaux, mais il pourra également faire valoir ses droits à la retraite car il a travaillé en prison. Si tout se passe bien, le faux docteur devrait rester 2 ans dans cet établissement religieux. Selon les dernières expertises psychiatriques, Jean-Claude Roman aurait très peu changé en 26 ans de détention, mais le risque de récidive est qualifié de faible.
À Brest, l'homme qui a tiré hier après-midi sur 2 personnes devant la mosquée Sunna a été retrouvé mort dans la soirée. Il s'est sans doute suicidé. Inconnu des services de police, il a laissé des écrits. Parmi les blessés, l'imam de la mosquée qui a reçu 4 balles, mais ses jours ne sont pas en danger. Vous connaissez la médiatrice de France Inter, à laquelle vous êtes nombreux à écrire d'ailleurs. L'éducation nationale aussi a une médiatrice qui a rendu hier son rapport annuel. Premier constat, le nombre de saisines a doublé en 10 ans. Second constat, la très grande majorité des problèmes sont réglés en quelques semaines, Sonia Princé.
À travers toute la France, les médiateurs ont reçu 14 600 réclamations, dont les 3/4 viennent des élèves, des étudiants ou de leurs familles. 3 grands thèmes ressortent, comme le précise Catherine Becchetti-Bizot, la médiatrice de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur.
Les premiers sujets de saisine des usagers, ce sont les questions d'inscription, d'orientation, d'affectation dans les établissements scolaires. Le deuxième sujet de saisine, ce sont les questions de vie scolaire et universitaire, qui comprennent les questions de discipline, les questions de sanctions, les questions de harcèlement, les questions de conflits interpersonnels. Et le troisième sujet de saisine, ce sont les questions d'examen, avec les questions d'évaluation, de notes.
Et sur cette question des examens, un point récurrent, les aménagements d'épreuves pour les élèves 10, dyslexiques notamment, un temps supplémentaire ou une aide particulière leur est parfois refusée.
Au moment des examens, on ne leur accorde plus les mêmes aménagements. Pourquoi ? Parce qu'on retourne vers un médecin qui refait une évaluation, qui considère que tel ou tel aménagement qu'il a eu n'est plus valable, n'est plus pertinent, qu'il y a une rupture d'égalité, etc. Donc ça arrive au dernier moment et les familles sont désespérées parce que l'enfant arrive à l'examen, il ne compose pas dans les mêmes conditions que d'habitude.
Dans 90% des cas de saisine, le problème est réglé dans les 3 mois et dans 70% des cas, le délai est même inférieur à 1 mois et cela évite souvent de passer par les tribunaux.
Et pour finir, Agnès, l'heure de vérité pour les Bleus.
Qui affronte ce soir en quart de finale de la Coupe du Monde féminine de foot ? Les Américaines, championnes du monde en titre, favorites de la compétition et qui ont déjà éliminé les Françaises lors de précédents grands rendez-vous. La pression est donc forte sur les épaules des Bleus et de leur sélectionneuse, l'énigmatique Corinne Diacre, parfois qualifiée de dure et autoritaire. Guillaume Batin s'est rendu à Soyou en Charente, le club où elle a joué toute sa carrière, qu'elle a ensuite entraîné, où elle réside encore aujourd'hui.
Depuis qu'elle dirige l'équipe de France, Corinne Diacre s'est fait l'image d'une femme qui étouffe les émotions. Sa personnalité est bien plus subtile, selon Bernadette Constantin, ancienne internationale et joueuse de Soyou avec Corinne Diacre.
Corinne, elle essaie de ne pas avoir de parasites, elle va à l'essentiel, à la simplicité. On parle de rigueur, on parle d'exigence, oui, ça c'est vrai. Est-ce que demander être à l'heure, c'est de la rigueur ? C'est pas de la sévérité. Je crois que c'est ses yeux bleus qui doivent faire ça, qui sont assez transparents et qui reflètent ça.
Quand la sélectionneuse de l'équipe de France arrive à Soyou, elle a 14 ans et elle est hébergée par Claude Faure, ancien entraîneur et dirigeant du club depuis les années 60.
On voyait déjà que c'était quelqu'un qui était fait pour la compétition et qui venait pas pour être championne départementale. Et humainement, c'est pareil, quoi. Elle est très droite. Elle a parrainé beaucoup d'associations caritatives, tout comme ça, mais bon, je sais qu'elle veut pas qu'on en parle, quoi. J'espère qu'après la Coupe du Monde, on la découvrira, quoi, ses qualités, parce que je trouve que il y a des commentaires un peu sévères, des fois, même.
Pour tous ses proches, Corinne Diacre est comme tout le monde, mais elle s'est construit une carapace le temps de sa mission à la tête des Bleus. À Soyou, Guillaume Batin, France Inter.
Et sa mission ce soir, c'est à 21h au Parc des Princes à Paris, à guichet fermé bien sûr. 35 000 supporters français, 10 000 supporters américains et puis un pays déjà qualifié pour les demi-finales, l'Angleterre qui a battu la Norvège hier soir au Havre 3-0.
Merci Agnès Soubiron.